On continue avec le numéro du mois de janvier du Monde Diplomatique. On va parler un petit peu de l'Irak avec Alain Grèche. Vous faites pas mal de papiers ce mois-ci, mais c'est plus sur l'Irak même, sur dans cette guerre prévisible. D'abord, quelle est votre conviction là-dessus, puisque tout le monde en parle, ça fait partie des sujets dont on parle, donc on va en parler aussi. Est-ce que cette guerre annoncée va se... Alain Grèche?
Oui, je crois que les États-Unis sont décidés à...
Jean-Pierre Gaillard attend.
Les États-Unis sont décidés à mener cette guerre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça nous ramène au problème immédiat, c'est de savoir quel débat on a sur cette guerre. Aujourd'hui, le débat, il est en gros, est-ce que l'Irak a des armes de destruction massive ou des résidus d'armes de destruction massive ou non? Et donc, si elle en a, on va lui faire la guerre. S'il n'en a pas, ce qui est difficile à prouver, on ne lui fera pas la guerre. Personne ne pose la question de savoir si c'est la question est bien posée. À supposer qu'il reste, et je pense qu'il reste, un certain nombre de résidus d'armes de destruction massive à l'Irak. La vraie question qui se pose, est-ce que c'est un prétexte suffisant pour faire la guerre? Je veux dire, des pays qui violent la loi internationale, les résolutions du Conseil de sécurité, il n'y a pas que l'Irak. On a en ce moment l'exemple de la Corée du Nord qui est, par certains aspects, beaucoup plus inquiétant. Les États-Unis ne sont pas prêts à faire la guerre à la Corée du Nord. Donc je crois que là, on voit bien comment aussi la manière dont les médias posent des fois le problème est mal posée. En fait, cette guerre, par les conséquences qu'elle peut avoir, quand on fait une guerre, c'est pas seulement en fonction d'un objectif, c'est aussi quelles vont être les conséquences de la guerre sur la région, quelles vont être les conséquences sur les relations internationales.
Et elle risque... sur la politique intérieure, parce que George Bush père n'a pas été renouvelé après la guerre en 92.
Tout à fait, ça, il y a un certain nombre de gens aux États-Unis qui pensent en fonction de considérations électorales, mais je crois que plus largement, je veux dire, il y a d'abord, on a voulu faire ce dossier sur l'Irak à partir d'une donnée, c'est que l'Irak est un pays avec un peuple, avec une population, des êtres humains, c'est pas un simple pion géostratégique. Et que c'est important de rappeler cette histoire et de rappeler les contradictions qu'il y a de ce pays. Par exemple, il y a un article qui est tout à fait intéressant, qui sont sur les dilemmes des Britanniques en 1920 quand ils conquièrent l'Irak. Et qui sont un peu les dilemmes que rencontreraient aujourd'hui les États-Unis si ils installaient un haut commissaire ou un consul général, un gouverneur général. C'est-à-dire comment on dirige un pays de 20 millions d'habitants avec une histoire, avec des divisions sociales, des divisions ethniques, des divisions religieuses, etc. Ça ne se fait pas dans les bureaux du Pentagone, ça ne se fait pas dans les bureaux de la Maison-Blanche. C'est des choses extrêmement compliquées et sur lesquelles, contrairement à ce qu'on pense, les Américains sont très peu armés de faire ça. Et rappeler l'histoire, rappeler quelles ont été, par exemple, les difficultés de la Grande-Bretagne à mettre en œuvre une politique au moment de la conquête du pays après la Première Guerre mondiale, est intéressant parce que ça, c'est les mêmes, enfin, dans une situation qui a profondément changé, mais les mêmes dilemmes. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de voir que cette guerre, elle va toucher 20 millions d'habitants qui vivent déjà sous une dictature qui est une dictature particulièrement dure.
Mais, un embargo.
Un embargo. Qui sont depuis 10 ans en embargo, comme ils ont fait la guerre, comme il y a eu la guerre avec l'Iran avant, c'est une population, c'est quelqu'un qui a 40 ans aujourd'hui, n'a connu pratiquement dans sa vie adulte que des guerres. Je veux dire, c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte quand on décide de dire on va refaire une guerre contre ce peuple. Et donc c'est ça qu'on a essayé de mettre en lumière dans ce dossier de 4 pages avec les différents éléments sur l'opposition, sur l'armée irakienne. Il y a un article tout à fait intéressant sur est-ce que l'armée irakienne va se battre ou non. Et l'auteur rappelle l'histoire de cette armée, comment elle s'est comportée en 90-91 au moment du Koweït, pourquoi une partie de l'armée s'est révoltée, pourquoi une partie de l'armée est restée fidèle. Des choses qui sont importantes pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer demain s'il y a une... comme nous le pensons, globalement, une intervention américaine contre l'Irak.
En parlant de la représentation, la réalité d'une guerre, il y a effectivement aujourd'hui des enfants, des femmes, des hommes qui sont une sorte de couloir de la mort en attendant, hein, en Irak. Il y a un très bon papier dans le Diplo de ce mois-ci sur le photojournalisme de Roskis, hein, qui raconte un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va vers une virtualisation de l'image, une image de plus en plus soumise aux attentes supposées du lecteur, et avec une comparaison avec le temps de la guerre du Vietnam où les photographes avaient eu un impact très grand sur l'opinion.
Puis il y a une autre, conséquence, je crois, de cette guerre qu'on ne mesure pas, c'est, il faut bien voir que cette guerre est perçue dans la majorité du monde arabe et musulman comme une guerre contre le monde arabo-musulman. Et c'est perçu comme ça, y compris en Europe, dans les populations musulmanes. Il y a eu un sondage en Grande-Bretagne, pour les deux tiers des Britanniques musulmans, c'est la guerre qui en fait se préparait, est une guerre contre l'islam. C'est-à-dire qu'on est en train d'alimenter par cette campagne une espèce d'affrontement de civilisation. Tout le monde dit, nous ne voulons pas d'affrontement entre civilisations, ça serait une grande catastrophe, etc. Ça serait effectivement une grande catastrophe. Mais en même temps, cette guerre alimente ce sentiment qu'on va vers un affrontement entre le monde musulman et l'Occident, comme si l'Occident ou le monde musulman étaient des entités fermées, etc. Et ça aussi, c'est très très grave, pas seulement sur le plan international, mais ça peut avoir même des conséquences internes sur les différents pays européens.
Ça c'est la thèse de la guerre des civilisations.
Oui, mais une chose est de dire que cette thèse, que nous la rejetons dans le sens de dire que ce n'est pas inéluctable et nous ne voulons pas évidemment une guerre des civilisations. Autre chose est de dire que la politique aujourd'hui menée par l'administration américaine est perçue par le monde arabe musulman, que les gens soient d'ailleurs des islamistes ou non, les réactions sont vraiment unanimes comme une guerre contre le monde arabo-musulman.
Soutenue par les ex-marxistes, les tiers-mondistes, ce monde arabo-musulman est soutenu par exemple un journal comme Le Monde Diplomatique, si on lit une certaine presse française.
Oui, mais c'est faux, il n'y a pas eu de critique plus virulente que celle du Monde Diplomatique sur la dictature irakienne. Nous ne sommes pas du tout dans un espèce de discours de dire Saddam Hussein est un défenseur de l'anti-impérialisme, etc. Saddam Hussein a été un bourreau de son peuple, et je crois qu'on l'a dit et répété. Une chose est de dire ça, après de réfléchir sur quelle stratégie qui permettent de remplacer ce régime. Et pourquoi ce qu'on a dit, depuis 10 ans, les stratégies américaines ont abouti à chaque fois à renforcer le régime et pas à l'affaiblir.